France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Volte-face à l'ONU, les États-Unis déposent une résolution appelant au cessez-le-feu à Gaza. Ils s'y étaient jusque-là toujours opposés devant le Conseil de sécurité. Nous serons à Washington. Tandis qu'en Israël, des ONG dénoncent tortures, morts et disparitions suspectes de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. L'un d'entre eux témoigne ce matin au micro d'Inter. Le monde est-il à l'aube d'un sérieux coup de frein, voire d'un basculement démographique? Une étude choc annonce ce matin une baisse mondiale de la fécondité d'ici à la fin du siècle. La quasi-totalité des pays ne pourrait plus assurer le renouvellement des générations. Dans ce journal aussi, les retards de paiement aux entreprises bientôt davantage sanctionnés. Les toits de Paris, joyaux patrimonial, mais fournaise totale pour ceux qui vivent en dessous. Et bercer son bébé entre deux passes de rugby, c'est désormais possible à Marcoussis.
Et au micro de Sonia De Villers aujourd'hui, Lynn Renaud, vice-présidente du SIDAction.
France Inter.
Interdite d'accès aux ONG, Alexis, comme aux journalistes étrangers.
Que se passe-t-il dans les prisons israéliennes, en particulier celles de l'armée, depuis le début du conflit contre le Hamas en octobre? Des associations israéliennes dénoncent des abus systématiques contre les détenus palestiniens, voire des cas de torture et de disparition forcée. Elles s'appuient sur les témoignages d'anciens prisonniers arrêtés à Gaza, puis relâchés quelques semaines plus tard, comme celui que vous allez entendre. C'est l'enquête de Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Baha Abou Roubka a 24 ans. Il veut témoigner en son nom propre pour donner plus de poids à son récit.
Je vous jure que j'ai l'impression d'avoir passé plus de 20 ans en prison à cause de la torture.
Ce secouriste bénévole du Croissant Rouge est arrêté le 21 décembre en début d'après-midi au siège de l'association dans le nord de Gaza. Il passera 3 semaines en détention.
On restait plus de 20 heures par jour à genoux. Ils nous ont fait subir des choses inimaginables. Il me disait « Tu es membre du Hamas ». Je répondais que je travaillais pour une organisation humanitaire. Ils m'ont mis tout nu, pieds et poings liés. Ils me frappaient dans les parties intimes. Il y avait même une soldate qui me giflait.
Des mensonges, selon l'ancien procureur militaire en Cisjordanie occupée, Maurice Hirsch.
Qui est relâché? Les collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour assurer leurs arrières? J'ai été torturé.
Depuis le 7 octobre, un juge peut décider du maintien en détention d'un suspect pendant 6 mois maximum, sans contact possible avec ses proches et sans être défendu par un avocat.
La torture n'est pas autorisée. Mais il est possible qu'il y ait des cas. L'armée israélienne n'est pas différente d'autres armées dans le monde, malheureusement.
Selon l'armée israélienne, 27 Palestiniens de Gaza sont morts en prison. Pour Maurice Hirsch, la majorité d'entre eux ont été blessés avant ou pendant leur arrestation et ils n'ont pas pu être sauvés.
Et ce matin à Gaza, l'armée israélienne annonce 300 arrestations depuis le début de son opération dans l'hôpital Al-Shifa, alors que selon des témoins, des combats violents se poursuivaient cette nuit autour de l'établissement. Le bilan humain de l'offensive israélienne frôle désormais les 32 000 morts palestiniens selon le Hamas. Et à l'ONU, les États-Unis semblent désormais prêts à durcir vraiment le ton contre Israël. Ils annoncent le dépôt d'une résolution devant le Conseil de sécurité pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Grande première pour Washington, qui jusque-là, Sébastien Paour, s'est toujours opposé à de telles résolutions.
Le texte devrait être approuvé, contrairement à tous les autres mis au vote devant le Conseil de sécurité depuis l'attaque du Hamas. Les États-Unis étaient les seuls, jusqu'à aujourd'hui, à rester opposés à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais le ton a récemment changé à Washington. Le mot cessez-le-feu n'est plus tabou. Froisser ou s'éloigner un peu des Israéliens n'est plus une ligne qu'on ne peut pas franchir, parce que l'obsession guerrière de Benjamin Netanyahou n'est plus tenable aux yeux de la Maison-Blanche, parce que la famine menace dans l'enclave palestinienne et que l'opinion publique américaine se détourne du candidat Biden en raison de ce qui est considéré ici comme un soutien aveugle à Israël sans prendre en compte le sort des habitants de Gaza. Les États-Unis espèrent que le message passera avec ce projet de résolution au moment où l'on négocie de nouveau la libération des otages. Blinken est attendu au Caire, puis en Israël dans les prochaines heures. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
3 milliards d'euros par an, les intérêts des avoirs russes gelés en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine, vont-ils servir à financer l'achat d'armes en faveur de Kiev? C'est une proposition en tout cas de la Commission que les 27 dirigeants européens vont examiner aujourd'hui à Bruxelles lors d'un nouveau sommet consacré au soutien à l'Ukraine au moment où la Russie a repris l'ascendant sur le front. L'Europe qui depuis 2017 applique provisoirement le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, en attendant la ratification par les
parlements nationaux. C'est ce qui se joue aujourd'hui au Sénat français. Avec ce coup de poker des élus communistes, ils ont inscrit le sujet à l'ordre du jour, espérant un rejet grâce aux voix de la droite et donc un potentiel revers cinglant pour le camp présidentiel. On vous explique tous les enjeux dans le journal de 8 heures. Déjà criante dans certains pays européens, amorcée en France, la baisse de la fécondité va devenir un phénomène mondial. D'ici à la fin du siècle, sur presque toute la planète, on ne fera pas assez d'enfants pour assurer le renouvellement des générations et donc le maintien en l'état des populations. C'est ce qu'affirme en tout cas ce matin Victor Dolan, une étude américaine publiée par la revue scientifique The Lancet.
Dans les années 50, les femmes avaient en moyenne 5 enfants chacune. Mais depuis 70 ans, le taux de fécondité baisse drastiquement dans le monde pour atteindre aujourd'hui 2,2 enfants en moyenne par femme, soit juste au-dessus du seuil pour assurer le renouvellement des générations. Dans leur projection pour l'année 2100, les chercheurs de l'Université de Washington ne voient que 6 pays dans le monde qui seront au-dessus de ce seuil, le Niger, le Tchad, la Somalie, les îles Samoa et Tonga et le Tadjikistan. Selon leurs calculs, la France, elle, verra son taux de fécondité parmi les plus élevés d'Europe en 2100, mais les femmes françaises n'auront plus assez d'enfants pour renouveler les générations. Pour le moment, ce ne sont que des projections. Tout dépendra des politiques d'encadrement des naissances, des niveaux de contraception ou des aides à la natalité dans chaque pays. Mais si ces tendances se confirment, l'équilibre économique mondial en sera bouleversé et les migrations, elles, devraient se multiplier.
En France, les finances publiques dans le rouge. Réunion d'urgence hier soir de la majorité à l'Élysée. Et Emmanuel Macron de lancer à ses invités qu'il faudra assumer et dire la vérité aux Français. L'exécutif s'attend à un déficit public bien plus fort que les 4,9% du PIB prévu jusque-là. Alors où tailler dans les dépenses, c'est tout l'enjeu des semaines à venir, avant le couperet des agences de notation en mai. Les PME et les artisans, eux, n'en peuvent plus d'attendre l'argent qu'on leur doit. C'est le fléau des retards de paiement par leurs clients. Que ce soit une autre entreprise, une collectivité locale ou même l'État, cette trésorerie dans la nature atteint 15 milliards d'euros, selon la ministre déléguée aux entreprises, Olivia Grégoire, qui annonce donc vouloir renforcer les sanctions contre les mauvais payeurs. Car Mathilde Ansker, les conséquences sont parfois majeures pour les fournisseurs.
12 jours, c'est la durée moyenne de ces retards de paiement, un délai qui pénalise les plus fragiles, c'est ce qu'explique Corinne Inesti. Elle préside la Confédération des petites et moyennes entreprises dans les Bouches-du-Rhône.
Ceux qui peuvent attendre, c'est ceux qui ont déjà de la trésorerie. Mais il y en a qui n'en ont pas d'avance, ou très peu. Ces petites entreprises, si elles doivent payer leurs salariés, elles vont devoir les payer à la fin du mois. Le 15 qui suit, elles vont payer leur SAP. Quand ça atteint un niveau important, ça va peut-être amener l'entreprise à être défaillante.
Alors pour ne pas en arriver là, certains s'arrangent avec leurs banques, négocient des découverts. D'autres solutions sont aussi possibles, mais ça a un coût. Jean-Christophe Trappi est entrepreneur dans le bâtiment.
Suivant les années, suivant les marchés, on a eu payé jusqu'à 13-14 000 euros de frais financiers.
Au niveau national, les retards de paiement représentent un quart des conflits qu'arbitre le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet. Selon lui, ces délais ont plusieurs explications.
Il y a deux catégories de mauvais payeurs. Il y a ceux qui font exprès et il y a malheureusement aussi beaucoup de grands acteurs qui ne font pas exprès. Ils ont mis en place des systèmes de contrôle. Tout ça est tout à fait normal. Simplement, ces systèmes de contrôle sont tellement lents et compliqués qu'au final, ça ne tient pas dans le délai prescrit par la loi.
En ce qui concerne les administrations publiques, il note que l'État a progressé ces dernières années, mais qu'il reste encore des retards de paiement dans certaines grosses collectivités locales.
Mathilde Ansker, ils sont indissociables de l'image de Paris, mais ne sont pas du tout adaptés aux canicules qui vont s'intensifier. Les toits traditionnels de la capitale pourraient bientôt faire leur entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, la candidature est déposée, mais elle ne fait pas l'unanimité, Sébastien Sabiron.
C'est un océan de zinc aux reflets bleutés qui varie selon la lumière. Paysage emblématique de la capitale, estime Delphine Burkly, la maire du 9e arrondissement de Paris, porte cette candidature auprès de l'UNESCO.
Ses couleurs, ses odeurs, ses toits en zinc, en tuiles, ses drôles de cheminées. Quand vous êtes au-dessus de Paris, bah vous savez que vous êtes au-dessus de Paris.
Mais ce zinc, qui recouvre 21 millions de mètres carrés de toiture parisienne, absorbe la chaleur et rend invivable certains logements. Dan Lehr, adjoint à la maire de Paris, chargé de la transition écologique.
Paris est déjà la ville d'Europe où on risque le plus de mourir de chaud. Donc classer les toits en zinc, c'est une mauvaise idée, c'est fragiliser Paris.
Les élus écologistes redoutent qu'un classement à l'UNESCO empêche par exemple la végétalisation des toits. Il n'en est rien, répond Delphine Burkli.
Il ne s'agit pas de figer ce patrimoine, mais plutôt de l'adapter. C'est une candidature résolument tournée vers l'avenir et en aucun cas en opposition avec la nécessaire adaptation au dérèglement climatique.
Pour préserver à la fois la santé des Parisiens et le paysage urbain, des solutions existent, explique Mériadec Colanier du GCCP qui représente la profession de couvreur.
Des panneaux photovoltaïques par exemple qui permettent de capter cette chaleur, des nouvelles solutions qui permettent de faire varier les couleurs du zinc par exemple, de façon à gagner quelques degrés de température.
L'UNESCO rendra sa décision en décembre prochain.
Qui bénéficiera cette année des recettes du loto du patrimoine? La liste des 18 sites sélectionnés vient d'être dévoilée, accent mis sur le patrimoine sportif en cette année olympique, avec notamment les écuries du haras national de Saint-Lô, une piscine des années 50 en Loire-Atlantique, ou encore la tribune d'honneur du parc des sports de la Courneuve.
Il est 7h40 et on n'avait jamais vu ça dans le temple du rugby tricolore.
Une poussette au bord du terrain d'entraînement des joueuses du 15 de France à Marcoussis, en pleine préparation du tournoi des Six Nations. La talonneuse Agathe Socha ne voulait pas être séparée de sa petite fille de 2 ans. Alors elle a demandé cette expérimentation inédite, Fanny Lechevestrier.
L'entraînement du 15 de France bat son plein, suivi à quelques mètres de là dans sa poussette par Nina, bientôt 2 ans, la petite fille d'Agathe Socha.
Voilà, elle est là dans l'enceinte, en marge des entraînements. C'est vraiment un bonheur pour moi de l'avoir ici. Ça me permet de rendre les 6 semaines un peu moins longues. C'est la première fois que ça se fait ici.
Durant 3 jours cette semaine, la maman a ainsi pu partager ses temps libres avec sa fille. Et les coéquipières de la talonneuse de 28 ans ne semblent pas le moins du monde perturbées par cette grande première. Anaëlle Dehay en redemande.
C'est une bulle d'oxygène, je pense, pour tout le monde. Et puis bon, un enfant, ça donne toujours le sourire. Donc on la voit, on a envie de rire, ça donne le sourire.
Voilà. De là à pérenniser et généraliser l'expérience.
En fait, après, je pense que c'est aussi en fonction des besoins. Je ne sais pas s'il faut normaliser ou en tout cas faire au ressenti. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai exprimé, un besoin que je ressentais. Je suis ravie d'avoir eu une écoute à ce niveau. Et bah, peut-être qu'après, ça ne sera plus un sujet. Donc on y va à tâtons, mais en tout cas, on y va et c'est super nouvelle.
Un bilan sera fait à l'issue du tournoi entre la joueuse, seule maman du groupe, et la Fédération française de rugby pour reconduire ou non l'expérience lors des prochaines compétitions.
Les joueuses du 15 de France qui débutent donc demain leur tournoi destination, ce sera face à l'Irlande, coup d'envoi 15h au Mans.
Merci Alexis Morel. À suivre Yael Gauss, Dominique Sonia de Villers.